le repos. J'avais envie d'intituler ça relax. Mais on va voir ensemble que dans la parole, on a des instructions, des indications, des bénédictions, des promesses liées au repos. Et vous savez, le repos, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable dans la vie d'une personne. Même en parlant de façon générale, les gens qui ont des problèmes avec le sommeil, etc., c'est très embêtant et ils cherchent des solutions, ils cherchent à faire des traitements, des choses, parce qu'on a besoin de sommeil, on a besoin de se reposer. Mais on va regarder ensemble qu'est-ce que la parole enseigne au sujet du repos et quelles sont les dimensions qui sont ouvertes à nous à ce sujet. Vous savez, des fois on parle beaucoup, il faut travailler pour le Seigneur, il faut faire l'œuvre de Dieu, il faut gagner des âmes, il faut passer du temps dans la Bible, il faut prier sans cesse. Et plein de choses comme ça qu'on se met et qui sont vraies si on les met les unes après les autres, mais qui très souvent nous mettent dans une situation où on est toujours en train de courir après quelque chose, on est toujours en train de courir après le temps, on est toujours en train, même en étant chrétien, on est débordé, on est surbooké, et ça amène même certaines personnes, que ce soit des croyants ou en particulier aussi des serviteurs de Dieu, à arriver à un point tel qu'on appelle le burn-out en anglais, c'est-à-dire c'est une situation où littéralement vous explosez quoi, on n'en peut plus parce que on n'arrête pas de faire des activités, on n'arrête pas d'être en action, à un moment ça passe plus, ça va plus. Et on va regarder ensemble que c'est vrai que le Seigneur nous demande de porter du fruit, c'est vrai qu'il nous demande de continuer sa mission, de continuer le ministère de Christ sur la terre, mais il nous parle aussi du repos. Et je pense que ce message pourra un petit peu apporter encore un petit plus à la série qu'on a faite dernièrement sur comment avoir un esprit fort. Je dis que vous devez vous nourrir, je dis que vous devez faire de l'exercice, mais le repos aussi c'est une clé importante. Vous savez, il y a des gens parfois s'ils tombent malades, on leur dit tu prends tel et tel médicament et surtout tu te reposes. Hein? Donc le repos dans le domaine physique ou naturel, il est important et il est même vital. Et je vous rappelle que beaucoup de choses de la vie physique ou naturelle sont une image ou un reflet de certaines réalités spirituelles. Et notre esprit aussi a besoin de repos. Et on va regarder ensemble un petit peu ce que la parole nous dit. Je vous propose pour commencer d'aller dans Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11 et au verset 28. C'est certainement un passage que vous connaissez bien. Et il nous dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc si quelqu'un est fatigué, ou si quelqu'un est chargé, eh bien Jésus lui promet de lui donner quoi ? Du repos. Ailleurs dans la parole, il est question de déposer nos fardeaux. Hein, donc ce que le Seigneur fait, il ne dit pas « Venez à moi et je vais vous donner encore plus de choses à faire ». Ce que la religion fait, elle vous dit « Venez et maintenant tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois pas faire comme ci, tu dois faire telle chose, il faut que tu viennes tant de fois dans tant de réunions, il faut que tu fasses tant d'exercices, il y a beaucoup de choses que la religion vous impose ». Mais Jésus n'est pas venu vous charger encore plus, Jésus est venu donner du repos. Du repos. Maintenant, on le verra un peu plus loin, mais je pose tout de suite l'équilibre. Le fait que Jésus nous donne du repos ne veut pas dire que nous soyons oisifs et que nous n'ayons rien à faire et que nous attendions que ça se passe. Mais il y a une dimension extraordinaire qui n'existe qu'en Christ, de pouvoir se reposer tout en étant en activité. Et on va regarder tout ça ensemble dans la parole de Dieu. Alors, un autre passage que j'aimerais qu'on regarde, c'est le psaume 23. Le psaume 23, là aussi, je pense que vous le connaissez. Il y a beaucoup de cartes postales et de choses avec ce psaume-là. Et moi, en ce qui me concerne, quand j'étais plus jeune, on nous faisait apprendre des versets, des choses par cœur. On peut peut-être discuter cette chose, mais c'est pas une si mauvaise habitude, parce qu'au moins ça vous fait mémoriser la parole et ça laisse des traces. Et moi, le psaume 23, on me l'avait fait apprendre par cœur depuis que j'étais enfant, mais il contient vraiment des grandes bénédictions. Pour moi, c'était juste qu'il fallait l'apprendre et puis on le récitait comme une récitation. Mais aujourd'hui, quand on regarde vraiment à ces choses-là, c'est pas juste un poème qu'on va apprendre et réciter. Il y a une puissance, une force spirituelle dans ces paroles et qui vont beaucoup, beaucoup nous aider. Donc la parole déclare ici, psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Waouh ! C'est pas un bon verset ça ? « Je ne manquerai de rien. » Mais par contre, la condition, bien sûr, c'est que l'Éternel soit mon berger. Le berger, c'est celui qui conduit. C'est vrai que c'est celui qui prend soin, c'est celui qui s'occupe de son troupeau, mais c'est celui qui conduit aussi son troupeau. C'est-à-dire que si je veux ne manquer de rien, eh bien il faut que je suive le Seigneur Jésus qui est mon berger. Vous savez, les brebis, elles vont pas où elles veulent, elles vont là où le berger dit d'aller. Et de la même façon, nous avons besoin de suivre notre berger, et dans ce cas-là, nous ne manquerons de rien. Et verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Voilà une bénédiction et une promesse sur le repos. Si nous suivons Jésus, notre berger, il ne va pas nous emmener... Je vais encore ouvrir un truc là, mais... Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour nous emmener sur un champ de bataille. Le Seigneur nous a sauvés pour nous amener dans de verts pâturages. Et très souvent, en tant que croyant, et excusez-moi, mais c'est la religion, on est là à dire, ah, il faut tenir, la vie c'est un combat, il faut mener le combat, il faut tenir, frère. Ah, c'est un combat, c'est dur, il faut combattre. C'est vrai qu'il y a le bon combat de la foi. Oui, je mène un combat, mais il y a un qui a déjà combattu pour moi et qui a déjà remporté la victoire. Donc mon combat, c'est de me tenir dans la victoire que Christ a accomplie pour moi. Mon combat, c'est pas de descendre sur le champ de bataille à essayer de faire quelque chose moi-même. Laisse-moi te dire que c'est peine perdue. Tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer, tu vas avoir l'impression d'avoir fait un truc spirituel, mais ça ne sert à rien d'autre qu'à te fatiguer et qu'à te tenir éloigné de ce que le Seigneur a préparé pour toi. C'est vrai que nous devons nous tenir, mais comme dit ce combat, c'est de se maintenir dans la foi en ce que Christ a accompli pour nous. Le combat, c'est pas d'aller nous-mêmes remporter une victoire. Donc, il nous amène où ça? Dans de verts pâturages. Un vert pâturage, c'est un endroit où il fait frais, où il fait bon, où il y a de la bonne pâture hein, pour une brebis. Le pâturage va manger l'herbe, une bonne herbe fraîche. Bien, le Seigneur nous amène dans un endroit aussi où on peut avoir une bonne nourriture fraîche, mais un endroit où on se repose. On se repose. Et laisse-moi vous dire que les chrétiens devraient être les gens les plus reposés et les plus détendus sur la terre. Je ne dis pas qu'on devrait être les gens qui ne font rien, mais je dis que nous devrions être détendus, reposés. Parce que ce que le Seigneur nous demande de faire, il nous demande de le faire, c'est vrai, mais nous le faisons dans une dimension de repos. Parce que ce n'est pas nous qui faisons les œuvres, mais c'est lui qui les accomplit. Et comme disait Jésus lui-même, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Mais ce psaume 23, donc, il me fait reposer dans de verts pâturages, dans de bons endroits. Laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu es dans un endroit qui ne te semble pas être un vert pâturage, c'est que tu n'es pas en train de suivre ton berger. Tu n'es pas en train de suivre ton berger, ou en tout cas, tu n'es pas en train de te mettre au bénéfice de ses promesses pour toi. Parce que Jésus ne te conduira jamais ailleurs que dans de verts pâturages. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations parfois qu'on traverse qui sont difficiles, mais l'endroit où nous devons demeurer, et là où Christ nous fait demeurer, ce sont de verts pâturages où nous pouvons nous reposer. Nous reposer. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Vous savez, notre âme, c'est là où on a toutes nos émotions, nos sentiments, notre sensibilité, tout ça. Et le Seigneur promet de donner une restauration à notre âme. C'est-à-dire que pouvoir des émotions, des sentiments, des choses qui soient restaurées. C'est-à-dire si on a des blessures intérieures, parfois les gens parlent beaucoup de guérison intérieure, tout ça. Mais quand tu suis le berger, là où il t'emmène, laisse-moi te dire qu'il restaure ton âme. Il te restaure. Il te restaure quand tu te reposes en lui. On va regarder un petit peu tout à l'heure comment se reposer en lui. Verset 3, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez là, il nous promet de verts pâturages où nous pouvons demeurer, nous reposer, mais il peut arriver que nous traversions la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand nous la traversons, ne la traversons pas dans le stress, ne la traversons pas dans l'anxiété, ce qui est des choses qui vous fatiguent et qui vous épuisent et qui vous amènent à la dépression, mais nous la traversons en paix, dans le repos, parce qu'il est avec nous. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc on voit déjà ici combien le Seigneur nous promet le repos. Le repos. Pas la suractivité, pas d'être débordé, mais de pouvoir nous reposer dans de verts pâturages, nous reposer en lui. Et un autre passage que j'aimerais qu'on regarde dans le Nouveau Testament, c'est dans Hébreux. Hébreux au chapitre 4. Hébreux chapitre 4, on va prendre à partir du verset 1er. Il dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de la désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc là, en fait, il fait une comparaison avec les gens de l'Ancien Testament qui n'ont pas su entrer réellement dans le repos que Dieu aurait destiné pour l'homme. Et ils n'ont pas pu entrer non plus pleinement dans leurs promesses. Pourquoi ? Parce que beaucoup, je vous rappelle, de l'Ancien Testament est une préfiguration de l'œuvre de Christ. Mais ce n'est qu'en Christ que les choses ont été accomplies. Qui fait que tous ceux qui sont venus avant n'ont pas pu entrer pleinement dans le repos, parce que le repos réel ne peut être trouvé qu'à cause de l'œuvre de Christ qui s'est chargé de nos fardeaux, de maladies, de nos souffrances et de toutes ces choses-là, et qui maintenant fait que nous pouvons trouver du repos en lui. Jésus lui-même disait, je vous rappelle, on l'a lu, Matthieu 11, 28, « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Donc, nous avons besoin de ne pas être endurcis et d'entrer dans ce repos de Dieu, de prendre du repos. Il est dit là au verset 10, « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Donc, nous avons besoin, et c'est une bonne chose, de nous reposer de nos œuvres. Quand faisons des choses, mais nous devons aussi pouvoir nous reposer. Un grand piège et une grande chose avec laquelle l'ennemi aime jouer, c'est de vous culpabiliser. Et quand vous vous asseyez, que vous vous reposez, tout d'un coup vous êtes en train de penser, ah mais pendant ce temps il faut que j'évangélise, ah mais il faudrait que je fasse telle chose, ah mais j'ai pas encore fait ceci, ah mais j'ai pas encore fait cela. Vous savez, bien sûr que parfois Dieu peut nous interpeller quand nous sommes là et que bon, il y a des choses à faire, oui, mais très souvent et le plus souvent, si vous êtes à l'œuvre et qu'à un moment donné vous prenez du temps pour vous reposer et que vous avez tout d'un coup plein de pensées qui arrivent en vous disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, il faudrait faire telle chose, il faudrait faire autre chose, très souvent c'est l'ennemi qui essaie de vous empêcher d'entrer dans le repos. Et nous avons besoin de nous reposer. Après, on peut ouvrir la question du sabbat, mais en tout cas nous devons prendre du temps pour nous reposer. De la même manière que Dieu a pris un jour pour se reposer après avoir accompli toute son œuvre, et bien de la même manière il nous demande et il nous exhorte à prendre du temps pour nous reposer de nos œuvres. C'est-à-dire qu'on doit trouver un moment pour nous reposer, et ce de façon régulière, de nous reposer de nos œuvres. Et ensuite il dit, verset 11, « Empressons-nous d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc ne pas se reposer, c'est même désobéir à Dieu. Et ensuite il dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et vous savez, quand vous voyez des versets comme ça qui s'enchaînent, on ne peut pas juste prendre le verset du repos, le sortir et dire « voilà, c'est fini ». S'il est question juste après de la parole, ça veut dire que la parole a un rôle à jouer et qu'elle est liée avec le fait que nous puissions nous reposer ou pas. Je me rappelle que précédemment, il disait également que « nous qui avons cru, nous entrons dans le repos » au verset 5. Donc le repos est lié à la foi et à la parole de Dieu. Donc si nous voulons entrer dans le repos, nous devons le faire par la foi et en nous appuyant sur la parole de Dieu. Parce que vous savez, parfois on peut dire « je me repose » et vous pouvez peut-être poser votre corps quelque part, mais si intérieurement ça continue à réfléchir, à gamberger, à bouillonner, tout ça, vous n'êtes pas reposé. Vous n'êtes pas reposé. Et pourtant, le Seigneur veut nous donner la paix intérieure et le vrai repos. C'est vrai qu'il y a le repos pour notre corps, c'est nécessaire, mais on a aussi besoin de pouvoir être réellement reposé dans tout notre être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pouvoir nous poser et ne pas être vraiment dans le repos, être juste là, je me repose. Ne pas être en train de penser à mille choses, parce que dans ce cas-là, vous ne vous reposez pas. Ne pas être en train de méditer, réfléchir, comment je vais faire pour me sortir de telle situation. Juste pouvoir se poser et être tranquille. Être tranquille. Le Seigneur veut ça pour nous. Je vous propose d'aller ensemble dans le psaume 34. Il y a vraiment une importance derrière ces choses-là. Et en ce qui me concerne personnellement, je me rends compte que quand parfois j'ai des périodes assez chargées, dans les différents domaines de ma vie qui ont tendance à être déjà bien chargés, mais souvent, tu commences à être fatigué. Et quand tu commences à être fatigué, tu tombes facilement malade. Et dans ces moments-là, on ne peut pas du tout blâmer le Seigneur ou même pas se mettre en question et dire « mince, est-ce que j'ai manqué de foi ?» Peut-être que j'ai manqué de foi pour ne pas me reposer, mais en tout cas, quand vous êtes fatigué, vous êtes beaucoup plus vulnérable. Et ça, c'est vrai dans votre corps, vous pouvez facilement tomber malade. C'est vrai aussi au niveau de votre âme, vous pouvez facilement être influencé par de mauvaises pensées, des choses comme ça. Et c'est vrai aussi dans votre esprit. Quand vous êtes fatigué, vous n'êtes pas disposé à entendre Dieu vous parler, vous n'êtes pas disposé réellement à vous présenter devant le Seigneur. Donc on a besoin de ce repos. C'est vraiment important et ça... Des répercussions dans toute notre existence. Alors maintenant, quelques éléments sur comment est-ce qu'on peut se reposer ou comment vivre le repos. Psaume 34, au verset 13, il est dit « Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Déjà, ce verset, c'est intéressant parce que souvent, les gens ils disent « Ouais, enfin, il y a des gens qui attendent la mort et qui se disent « Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une longue vie. » Vu comment ça se passe sur la terre, vu les circonstances. Mais j'arrive à vous dire, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais la parole contient pas mal de promesses pour une longue vie, pour la longévité. Et Dieu désire que nous soyons rassasiés de jours, et que notre vie soit accomplie, et que nous partions satisfaits en ayant vécu pleinement notre vie. Et pas que nous soyons là à attendre la mort en disant, de toute façon, la vie n'a pas... Non, là il dit, quel homme aime la vie et veut la prolonger pour jouir du bonheur ? C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, si nous devons vivre longtemps, c'est pas pour vivre n'importe comment, c'est pour que notre bonheur se prolonge. Et alors il dit au verset 14, « Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Donc voilà une clé pour une longue vie, mais aussi pour pouvoir réellement vivre dans le repos. Si vous appliquez ça, ça va vous soulager de pas mal de situations épuisante. Si vous êtes capable de surveiller les paroles de vos bouches, et si vous êtes capable de protéger vos lèvres des paroles trompeuses et votre langue du mal, et de vous éloigner du mal pour faire le bien, je vous assure que vous allez éviter beaucoup, beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Parce que parfois, une petite parole, ça suffit pour créer toute une montagne et tout un fromage, et les gens font plein de choses avec ça, après vous avez des ennuis. Et c'est très fatigant de devoir essayer de gérer ce genre d'ennuis, ou parfois les malentendus, ou les choses comme ça. Ou parfois quand les gens disent quelque chose à quelqu'un, et puis la personne va le répéter, et tout d'un coup vous êtes dans un problème. Et c'est très épuisant d'essayer après de recoller les morceaux, et après on est dans des situations où on ne sait plus qui a dit quoi, et qui fait comment, et c'est très compliqué. Mais si nous surveillons nos paroles, nous dit la parole ici, déjà ça nous préserve, ça nous permet de prolonger notre vie, ça nous permet de vivre aussi un repos, parce qu'on s'évite pas mal de soucis. Et au verset 15, bien sûr, de s'éloigner du mal et de faire le bien et de rechercher et poursuivre la paix. La paix. Vous savez, la paix, c'est un élément qui va avec le repos. Quand vous êtes en paix, vous pouvez vous reposer. Quand vous n'êtes pas en paix, vous pouvez toujours reposer votre corps, mais vous n'êtes pas réellement reposé. Vous n'êtes pas réellement reposé. Et au bout d'un moment, vous fatiguez et ça amène des gens dans des situations compliquées, parce que si tu n'as pas la paix intérieure, tu ne te reposes pas vraiment. Tu ne te reposes pas vraiment. Et ici, il nous dit de rechercher et de poursuivre la paix. Donc nous devons faire cette démarche de dire je veux rechercher et poursuivre la paix pour être dans le repos. C'est de ma part de dire je cherche ce qui convient à la paix, ce qui est bien sûr de faire le bien, mais aussi rechercher ce qui convient à la paix. Vous savez, quand vous cherchez à faire le bien et à poursuivre la paix, eh bien ce que vous allez semer, à un moment donné, vous allez aussi le récolter des personnes qui sont autour de vous. Des fois, on peut se dire, ouais, mais moi j'essaye de bien faire, mais tous les gens autour de moi, ils agissent n'importe comment, ou ils viennent me créer du trouble. Oui, mais à force que tu aies une bonne attitude, que tu fasses du bien, que tu sois dans la paix, que tu recherches la paix avec les gens, eh bien, petit à petit, les gens vont aussi changer vis-à-vis de toi. Et les gens même qui viennent te chercher des problèmes, si toi tu cherches à garder ou à rétablir la paix, eh bien, petit à petit, la personne, elle va même se décourager de te chercher des problèmes parce qu'elle sent que ça passe pas et que tu es là pour maintenir la paix. Maintenant, évidemment, la parole dit aussi que pour autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. De rechercher la paix avec les personnes, mais aussi avec soi-même. Quand vous êtes en train de faire des choses pas claires, vous n'êtes pas en paix non plus, même pas avec vous-même. Et ça crée des problèmes sérieux aussi. On a besoin de poursuivre la paix, de la rechercher, parce que la paix intérieure, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un vrai repos. On pourra dire, parfois dans les psaumes, David utilise l'expression, il dit parfois « mon âme est tranquille en toi », parfois qu'il se repose dans le Seigneur, parce que avec la paix intérieure, ça vous assure un repos et la paix pour tout votre être. Et ça, c'est très important, et on a besoin vraiment de rechercher la paix. Et ça simplifie beaucoup la vie. Vous savez, si vous faites ce qui est dit là, dans le psaume 34, de ne pas avoir des paroles trompeuses, ou de ne pas avoir le mal sur votre langue, vous simplifiez beaucoup votre vie. Une autre chose pour vivre le repos, dans l'évangile de Jean 15, verset 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si nous voulons combattre ou faire des choses ou aller sur le terrain par nous-mêmes, nous allons nous fatiguer, nous épuiser. Mais si on nous dit « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Donc la clé pour porter du fruit, ce n'est pas de courir dans tous les sens et de s'agiter, c'est juste de demeurer en lui. Demeurer dans sa parole, demeurer dans sa présence, demeurer bien sûr dans ce qu'il nous enseigne, dans ses commandements. Et à partir de là, nous allons poser des actes qui sont simplement la manifestation visible de ce qu'il a déjà accompli dans l'invisible. Je vous rappelle que Jésus disait dans Jean 5 « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Et si nous apprenons à ne faire que ce que le Seigneur nous demande de faire, on va aussi beaucoup, beaucoup simplifier notre existence et on va pouvoir jouir réellement de ce qu'il a préparé pour nous et marcher dans le repos. Des fois, on essaye de faire plein de choses, mais on les fait avec notre force parce que ce n'est pas le Seigneur qui nous a envoyé les faire. Et ça, c'est une grande chose, c'est une chose importante de comprendre aussi que nous ne devons pas juste faire plein de choses. Et quand la Bible déclare que nous devons porter du fruit, je vous rappelle aussi qu'Éphésiens 2.10 dit qu'il y a des œuvres bonnes préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et la seule chose que le Seigneur attend de nous, c'est que nous fassions ce qu'il nous a demandé et ce qu'il nous a confié. Il n'attend pas plus, il n'attend pas moins non plus. Mais il ne nous demande pas de faire plein de choses, il nous demande juste de faire ce qu'il nous a dit de faire. Donc c'est pas en s'agitant, en allant partout. De toute façon, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien faire. Mais quand vous marchez avec Dieu et que vous faites ce qu'il vous dit de faire, vous êtes au bénéfice de la paix et du repos. Et on peut voir ça notamment dans Exode 33, au verset 14, où Moïse est en train de discuter avec le Seigneur, puisqu'il a été envoyé, je vous rappelle, pour faire sortir le peuple d'Égypte. Et l'Éternel lui dit au verset 14 « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Donc Dieu a donné à Moïse une mission qui était quand même une mission très importante, de faire sortir le peuple de l'esclavage, de faire sortir son peuple d'Égypte. Mais Dieu, en même temps qu'il lui dit « Je serai avec toi », il dit aussi « Et je te donnerai du repos. » C'est que quand Dieu nous envoie faire quelque chose, il nous dit « Fais telle chose, vas-y, mais je m'engage à être avec toi, et parce que je suis avec toi, je te donne aussi du repos. » Du repos. Ça fonctionne ensemble. Quand nous marchons avec le Seigneur, et quand nous servons le Seigneur, nous le faisons avec sa force. Bien sûr, nous nous investissons personnellement, mais il nous donne du repos. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, ou qui sert le Seigneur, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas à se plaindre d'être épuisé, c'est quelqu'un qui n'a pas à se plaindre de dire « Ah, mais j'ai tellement de choses à faire, le Seigneur m'a donné tellement de travail, ah, oh, j'en peux plus, j'y arrive plus. » Si c'est ça, c'est que la moitié de ce que tu fais, c'est parce que le Seigneur t'a demandé de faire. Quelqu'un qui fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire, il peut y avoir une quantité de travail, il va le faire simplement, tranquillement. je peux vous assurer que j'ai appris et je bénis le Seigneur de m'avoir appris à vivre dans le repos de Dieu. C'est-à-dire que pour moi, que quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, je le fais simplement, tranquillement. Je dis pas il y a du travail derrière ça. Préparer des messages, il y a un travail. Préparer les célébrations, il y a un travail. Réfléchir au développement de l'œuvre de Dieu, parce que c'est notre responsabilité, il y a du travail. On a démarré l'Institut biblique, il y a du travail. Préparer des cours, il y a du travail. Mais quand le Seigneur t'a parlé et quand le Seigneur t'envoie, tu fais les choses, je peux t'assurer que tu n'es pas épuisé, abattu par terre, alors que quelqu'un qui ferait la même chose sans que Dieu ne lui ait parlé, il n'y arriverait pas. Il serait cassé. Et j'ai expérimenté parfois aussi, particulièrement dans des voyages missionnaires que j'ai fait, où souvent on avait un rythme effréné, on sautait des repas, on finissait des réunions dans une ville, on sautait dans le bus pour aller dans l'autre ville et on enchaînait quasiment. Enfin, on a fait des périples comme ça, et dans ces moments-là, tu vois que Dieu te donne du repos. Dieu te donne du repos. Tu es à l'œuvre, tu travailles même beaucoup. Tu peux faire. Des fois, on faisait plusieurs réunions par jour, et après, les gens venaient encore toquer à l'endroit où on était pour qu'on puisse prier pour eux, etc. Mais tu te rends compte que tu fais toutes ces choses-là. Mais dans ces moments-là, on se rend compte de façon assez remarquable qu'en fait, on continue à faire les choses, mais en même temps, on se rend compte que, mais comment je fais tout ça? On sent que c'est le Seigneur qui est en train de travailler à travers nous, tout simplement. Et nous, on est dans le repos. On est là, on est dans l'œuvre de Dieu et on laisse le Seigneur agir dans ce qu'il a préparé pour nous. Donc, il y a vraiment une bénédiction à marcher avec le Seigneur, et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous envoie, mais il nous donne le repos qui convient avec. Vous savez, Dieu seul est capable de nous donner la vraie paix et le vrai repos. Des fois, les gens, ils essaient de trouver de la paix ou du repos en prenant des médicaments pour s'endormir le soir, ou en prenant des calmants, en prenant toutes sortes de choses, ou pire encore, les gens vont se droguer, vont même prendre de l'alcool et des choses comme ça pour essayer de s'apaiser, parce qu'ils sont trop agités à l'intérieur à force de faire des choses et faire des choses. Mais le seul vrai repos et la vraie paix, on la trouve en Dieu. On la trouve en Dieu qui s'engage lui-même à nous donner la paix si nous marchons avec lui. Ensuite, on va regarder dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, Romains 14, au verset 17, légalement question de la paix, cette paix qui procure le repos. Romains 14, 17, il est dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Là, il nous a dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que la paix fait partie, en fait c'est une caractéristique du royaume de Dieu. Si on dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit, ça veut dire que la paix ne peut pas être dissociée du royaume de Dieu. Donc normalement, si nous vivons et que nous opérons dans le royaume de Dieu, nous devrions opérer dans une dimension, dans une atmosphère de paix par le Saint-Esprit. Donc nous devons marcher dans cette paix que le Seigneur nous donne, et c'est une paix qu'on va avoir, pas comme ça par hasard, mais ce qui est du royaume de Dieu, nous l'obtenons et nous le voyons se réaliser dans notre vie à mesure que nous étudions les principes de ce royaume, c'est-à-dire la Bible, et que nous passons du temps avec le Seigneur de ce royaume, c'est-à-dire avec le Seigneur Jésus. Donc quand vous passez du temps avec lui, eh bien ces vérités du royaume commencent à devenir évidentes dans votre vie, et la paix fait partie du royaume de Dieu. Elle fait partie du royaume de Dieu. Vous savez, même des fois, vous êtes au contact de certains chrétiens, ou même quand vous rentrez dans certaines églises, on est là et puis il n'y a pas une atmosphère de paix. On sent que tout le monde est excité. Je ne parle pas de s'exprimer pendant la louange et l'adoration, tout ça. Et on peut s'exprimer, ça n'a rien à voir. Alors, on peut y avoir un peu d'agitation parce qu'on est en train d'honorer le Seigneur, mais des fois vous êtes là et vous sentez qu'il n'y a pas de paix. Et parfois, s'il y a un petit silence, c'est comme si vite quelqu'un se précipite pour remplir le trou parce que on a dit qu'ils ont peur d'être dans la tranquillité ou directement comme ça devant le Seigneur. On sent qu'il y a toujours une espèce d'agitation de choses. Et ça, c'est pas bon, parce que le royaume de Dieu, il est caractérisé par la paix de Dieu. C'est-à-dire qu'en un moment, quand vous entrez dans un endroit où des chrétiens sont assemblés, vous ressentez la paix. Dans certaines réunions, où les gens arrivent et disent, mais c'est vraiment parce qu'on arrive, on sent la paix. Des fois, même dans notre maison, il y a des gens qui viennent et qui disent, mais tu sais, chez toi, il y a vraiment une paix, il y a quelque chose. Et ça, c'est une caractéristique du royaume de Dieu. Et nous devrions être caractérisés par cette paix. Que même si quelqu'un vient avec des soucis ou qu'il est agité, bah lorsqu'il arrive dans nos assemblées ou même dans nos maisons, parce que nous sommes tous les représentants du royaume, qu'il puisse ressentir une paix profonde, qu'il puisse être apaisé. Parce que c'est une caractéristique du royaume. Donc, on a besoin d'être en paix. Et l'Épître aux Éphésiens également nous parle de cette paix. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 11, il est dit: « C'est pourquoi vous qui autrefois étiez païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » C'est la paix est aussi liée au fait de se sentir en sécurité quelque part, ou du fait de se sentir chez soi quelque part. Et il nous montre là que avant, en tant païen, on était hors des promesses de Dieu, on n'avait pas d'endroit, on était errant, vagabond comme ça. Mais quand vous venez à Christ, maintenant vous savez en qui vous avez cru, vous avez un maître et un seigneur, vous avez un endroit, vous savez que vous êtes du royaume de Dieu, et quand vous avez une église locale, parce que ça fait partie aussi, vous savez que vous appartenez à un groupe, à une famille, vous savez que vous êtes quelque part. Dieu vous a donné maintenant des éléments qui viennent poser des jalons pour la paix dans votre vie. Parce que quand on ne sait pas, quand on n'a pas d'espérance, on ne peut pas être en paix. Or, Christ est notre espérance. Et il nous donne un avenir et une espérance. Et la parole de Dieu contient des promesses à ce sujet qui nous permettent d'être dans la paix. Donc la paix fait partie de notre héritage en Christ. Elle fait partie du royaume de Dieu. Et donc on a besoin d'être en paix, bien sûr, premièrement avec Dieu. Puisque si on n'est pas en paix avec Dieu, on ne sera jamais en paix avec nous-mêmes ni avec personne. Mais une fois que nous sommes venus à Christ, que nous sommes repentis, que nous sommes nés de nouveau, nous sommes maintenant en paix avec Dieu, et ça va procurer la paix à tout notre être. Donc la paix intérieure que nous avons va aussi amener l'ordre et la paix autour de nous. Un autre élément pour vivre ce repos de Dieu, important à saisir aussi. Vous savez, Dieu nous a donné tout un ensemble d'équipements ou de choses en nous qui nous permettent de discerner ce qui se passe en nous, mais aussi ce qui se passe autour de nous. Et c'est un bon moyen que Dieu nous donne aussi pour vivre réellement dans le repos et dans la paix. Vous savez, quand le Seigneur vous parle, je vous rappelle que la Bible déclare que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et souvent Dieu nous parle dans notre esprit. Et de la même façon, quand on est devant des situations, eh bien en nous, il peut y avoir des réactions qui nous font discerner est-ce que ce qui est là devant moi, eh bien, quelle direction est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et quand nous suivons ces directives que nous avons en nous, ça nous amène à vivre dans la paix. 1 Jean 3 au verset 9. 1 Jean 3 au verset 9, il est dit: « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Le fait de pécher va nous priver de la paix de Dieu. Ni celui qui ne pratique pas la justice, qui n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. Donc le péché va nous en écarter. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible déclare ici que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors pourquoi nous ne pratiquons pas le péché? Parce que Dieu, qui a restauré notre esprit et qui nous a purifié notre conscience, nous permet de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais si toutefois nous choisissons ce qui n'est pas bon, vous remarquerez, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans votre vie, quand vous faites une erreur, quand vous faites un pas de travers ou quand vous péchez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur de vous, vous perdez la paix. Vous n'êtes pas tranquille, vous ne vous sentez pas bien. Mais quand nous marchons sur ce que nous avons reçu de Dieu, et que cette semence de Dieu qui est en nous, eh bien nous l'honorons, nous la respectons et nous suivons les directions de Dieu dans notre esprit, en sachant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, nous assurons aussi une marche dans la paix, dans la paix. La paix intérieure de savoir qu'on est en communion avec Dieu et qu'on a fait ce qui est juste. Et si toutefois, bien sûr, on fait une erreur, Dieu est fidèle pour nous pardonner. 1 Jean 1, verset 9, qui nous dit: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc si on perd un peu la paix parce qu'on a fait une erreur ou un péché, bien Dieu est fidèle pour nous pardonner, et comme ça la paix peut revenir et recommencer à être agissante en nous. Et quand Dieu vous parle dans votre esprit, eh bien soyez attentif et agissez selon ce qu'il vous a dit. Ça va vous procurer la paix parce que vous savez que vous avez fait ce qui était bon. Vous savez, parfois Dieu nous dit de faire quelque chose et quand nous ne le faisons pas, on n'est pas tranquille en soi. Et des fois même Dieu nous parle pour quelque chose de très ponctuel ou de très immédiat, et si nous ne le faisons pas, après on regrette, on ne se sent pas bien, on se dit mince, j'ai raté quelque chose, j'ai pas su réagir sur ce que Dieu m'a dit. Maintenant il ne s'agit pas d'être abattu et de se dire bon bah tant pis, j'ai raté, mais il s'agit de prendre la résolution et d'être attentif à ce qui se passe dans notre esprit pour réagir à ce que Dieu nous dit et à ce que Dieu met là en nous, et ça va nous assurer la paix parce qu'on sait que simplement on est vrai vis-à-vis de soi-même, on est vrai vis-à-vis de ce qui se passe en nous, et on est en paix parce qu'on sait qu'on simplement on fait ce que le Seigneur nous dit et ce qu'il met dans nos cœurs. Donc ça c'est très très important. Donc le repos de Dieu est disponible pour nous et le Seigneur veut que nous nous reposions. Il le veut. On doit prendre du repos. C'est important. C'est important. On ne peut pas juste comme ça continuer à croire qu'on peut courir dans tous les sens. Tôt ou tard, on va plus y arriver. Parce qu'on va avec nos propres forces et nos forces sont limitées. Mais le Seigneur, lui, est illimité. Et si nous apprenons à nous reposer sur lui, eh bien nous allons voir comment il agit en nous. Et mieux que ça, nous allons faire beaucoup plus que ce que nous aurions fait nous-mêmes en nous investissant du mieux que nous pouvions. Et le temps que nous allons prendre pour nous reposer en lui, c'est pas un temps qui est perdu. Alors Ésaïe 40 au verset 28, Ésaïe 40:28, il est dit: ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Voilà ce que le Seigneur a préparé pour nous. Le repos de Dieu, il est décrit ici. C'est si tu es fatigué, il te donne de la force. Si tu tombes en défaillance, il te renouvelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Pendant que tu cours, tu ne te lasses point. Pendant que tu marches, tu ne te fatigues point. Il renouvelle tes forces. Et si vous regardez le peuple d'Israël, quand ils ont traversé le désert, la Bible nous montre que Dieu a permis déjà que même leurs vêtements et leurs possessions matérielles ne s'usent pas. Pendant tout ce temps qu'ils ont tourné dans le désert, hein, leurs affaires ne sont pas usées, et le Seigneur renouvelait leur force pendant la marche. Élie a su marcher, Dieu renouvelait sa force pendant qu'il marchait. Hein, Dieu lui avait dit, alors qu'il était découragé, il était venu, il lui a même préparé un petit gâteau. Et à des fois je me dis, mais si le Seigneur pouvait me faire un gâteau. Il a préparé un petit gâteau, il a pris ce gâteau, le Seigneur lui a dit, mange parce que tu vas devoir faire un long chemin. Et même c'est pas le petit gâteau qui a pu le fortifier, c'est que pendant qu'il marchait, il était renouvelé parce qu'il marchait sur une parole du Seigneur et il se confiait en Dieu. Et donc vous marchez, mais vous ne vous fatiguez pas, vous ne vous lassez pas, vous continuez. Quoi qu'il y ait comme obstacle, quoi qu'il y ait comme distance que vous ayez à parcourir, vous continuez, vous ne vous fatiguez pas, vous ne vous lassez pas. Pourquoi? Parce que vous vous reposez en lui pendant que vous marchez. On devrait toujours être en train de se reposer en Dieu. Et même pendant qu'on est à l'œuvre, on est en train de se reposer en Dieu. Parce qu'on n'agit pas avec nos propres ressources, on n'agit pas avec notre propre bonne volonté, on agit avec ses ressources et sa force. Et quand tu agis sur une parole de Dieu et que tu marches dans la foi, ben c'est pas tes propres ressources qui sont nécessaires, mais ce sont ses ressources qui sont actives et toi tu es dans le repos. Tu es dans le repos. Quand nous marchons par la foi, la charge ne repose pas sur nous, mais elle repose sur lui. Le combat, c'est lui qui l'a déjà remporté. Mon combat à moi, c'est d'être dans la foi. C'est me nourrir de la parole de Dieu et de rester positionné dans la foi. Dire non, il a déjà remporté. Dieu est celui qui agit, Dieu est celui qui a la puissance et qui est à l'œuvre. Et nous devons être dans le repos. Donc si jusqu'à présent c'est rempli, ça déborde, vous êtes trop au maximum et vous êtes trop occupé et ça ne va plus, ben c'est le moment de vous reposer dans le Seigneur. Simplement déposer vos fardeaux devant lui, venez, Seigneur, je suis fatigué et chargé. Et que Qu'est-ce qu'il nous a dit dans Matthieu 11, 28 ? Je vous donnerai du repos. Du repos. Donc il va nous donner le repos, mais maintenant à nous aussi d'observer ce que nous avons vu dans Hébreux 4, c'est-à-dire de ne pas être désobéissant pour recommencer à nous charger nous-mêmes de plein de choses, mais d'être dans l'obéissance et de nous empresser de demeurer dans ce repos que Dieu a préparé pour nous. Ok, une dernière chose quand même que je veux regarder avec vous. Vous savez, c'est important d'avoir une vie de prière. C'est important de passer du temps dans la parole de Dieu. Mais il y a une autre chose qui est importante, c'est de se reposer en Dieu. J'entends par là de savoir parfois se poser et ne rien dire, ne rien faire, juste se mettre devant le Seigneur, comme ça. Tu parles pas, tu pries pas, tu lis pas ta Bible, tu médites même pas la parole. C'est toutes des bonnes choses qu'il faut faire, hein. Mais il y a une chose qui est bonne, c'est de parfois savoir se mettre là sans rien faire. Sans programme, sans rien, tu te poses et tu dis, Seigneur, voilà, je suis devant toi, je reste tranquille. Et parfois ça peut paraître étrange au début, mais moi ça m'arrive de me poser quelque part ou même de m'allonger puis d'être là et tu penses à rien, tu réfléchis à rien, tu es là tranquille. Vous savez, les gens du monde parfois ils disent ouais, tu fais le vide, et donc ils ont des certaines choses et certaines pratiques, parfois même ils disent de se passer des pensées dans la tête ou de se concentrer sur un organe de votre corps et de vous dire des choses et que ça vous aide à vous relaxer. Dieu est encore mieux pour nous, parce qu'on n'a pas à faire toutes ces espèces de pratiques bizarroïdes, d'autoconviction. On peut juste se poser devant lui et rester là. Rester là, dans le silence, dans le calme. Tu vas sentir que tu as passé un temps avec le Seigneur. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va te parler, tu vas noter ce qu'il t'a dit. Mais quand tu arrives, tu viens pas en disant « Bon Seigneur, ça y est, maintenant c'est notre moment de communion, tu vas me parler, moi je vais prier, etc. etc. » Non, tu viens tranquille, calme, tu te poses. C'est ce qu'on peut appeler aussi s'abandonner au Seigneur. Et ça, c'est une pratique qui peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien parce que vous abandonnez ce que vous savez faire, ce que vous savez dire et vos propres petits plans et vous vous mettez vraiment... C'est la Bible déclare, notamment dans Romains 12, d'offrir nos corps en sacrifice au Seigneur. Alors, bien sûr que ça veut dire de mettre notre corps au service de Dieu, mais aussi de juste nous poser comme un sacrifice. Dire, voilà Seigneur, je me consacre à toi et je me pose là et je me tais. Vous allez voir que dans votre esprit passe des choses. Vous sentez que vous n'êtes pas là juste comme ça en train d'attendre. Vous êtes réellement en communion avec le Seigneur. Le psaume 4, au verset 5, il est dit « Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Taisez-vous. Vous savez, parfois, c'est vrai qu'on a besoin de prier, on a besoin de parler au Seigneur. Il dit même sur votre couche, peut être sur ton lit, parlez dans votre cœur, mais ensuite taisez-vous. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens ne savent pas faire. Et nous avons besoin d'apprendre à nous taire. C'est parfois, on est là, on parle, on fait des trucs, on fait des machins. Mais taisez-vous, reste tranquille, silence, calme. Et laisse juste le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Il va peut-être te parler, il va peut-être travailler en toi, il va faire quelque chose. Mais tais-toi, reste tranquille devant le Seigneur. Reste tranquille devant le Seigneur. Vous savez, notre relation avec Dieu, c'est une vraie relation. C'est pas juste un truc où on fait nos petits exercices en disant ça y est, j'ai prié, j'ai fait mon petit devoir avec le Seigneur. Mais parfois, c'est juste d'être là. Quand on est en relation avec quelqu'un ou même dans le couple ou des choses comme ça, il y a des moments où on n'est pas en train de se parler, on est juste là, tranquille. Et pourtant, on est en communion. Et avec le Seigneur, on peut vivre une communion. C'est pas juste parler, faire des trucs. Donc la clé pour connaître le vrai repos et la vraie paix, on a observé quelques aspects, mais avant tout, c'est la foi. C'est se confier en Dieu. La vraie paix et le vrai repos viennent quand vous faites confiance à Dieu, à tel point que vous ne vous inquiétez même plus, vous êtes tranquille. Et votre paix intérieure, on peut dire, ou le repos de votre esprit et même de votre âme, puisque Dieu dit qu'il restaurerait votre âme, va provoquer aussi un repos et un bien-être pour tout votre être. Vous pourrez vraiment vous reposer. Restez tranquille devant le Seigneur et laissez-le vous rencontrer, passer un moment avec lui. Tenez-vous là tranquillement et reposez-vous en lui. Reposez-vous en lui. En passant, pour vous déculpabiliser, si jamais, je vous rappelle l'histoire de Marthe et Marie. Jésus disait que c'était Marie qui avait choisi la bonne part quand il est entré dans leur maison et Marthe était en train de s'affairer à préparer certainement à manger, à préparer les choses, à recevoir Jésus du mieux possible. Et pendant ce temps, Marie s'était simplement mise au pied de Jésus et Jésus dira que c'est elle qui a choisi la bonne part. Marthe est en train de dire, mais Seigneur, tu vois pas que j'ai du travail, je suis en train de me faire des choses, et elle est là tranquille. Mais c'était Marie qui avait fait le bon choix, parce qu'elle avait choisi de se mettre au pied du Seigneur pour recevoir ses instructions et se reposer en lui. Nous avons aussi besoin de prendre cette bonne habitude de nous reposer dans le Seigneur. Pas de nous affairer, pas de courir dans tous les sens, mais de nous reposer en lui et de recevoir ses instructions, ses directions. Et vous allez voir que tout ce que vous allez faire dorénavant, vous allez le faire avec beaucoup plus de facilité et d'aisance. Parce que c'est avec sa force que vous allez, c'est avec ses promesses que vous avancez, et sa parole ne manquera jamais, et sa parole à laquelle vous associez la foi va forcément se réaliser. Amen.